Bonjour. Dans la presse, après l'agression d'une adolescente devant son collège à Montpellier, la presse de ce matin, les journaux reviennent sur la question des violences en milieu scolaire.
Violence dans et devant les établissements et aussi violence sur les réseaux sociaux. Les ados face à la haine en ligne, titre en une Le Parisien, car Samara, 13 ans, tabassée mardi jusqu'à frôler la mort, était harcelée sur les réseaux par des camarades de collège. Comment est-on passé d'une photo humoristique sur les réseaux à un tel déchaînement de violence, s'interroge le directeur des opérations de la plateforme d'aide aux victimes du cyberharcèlement. Le journal explique comment l'anonymat des réseaux stimule les invectives en garantissant l'impunité chez les jeunes gens. L'effet de meute est sous-estimé, diagnostique une psychologue. Titre du journal local Midi Libre, Samara, le choc et la peur.
La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, annonce donc une mobilisation générale pour la sécurité des collèges et des lycées.
L'exécutif cherche la parade, résume Les Échos. Le journal souligne que le plan pour la sécurité des élèves, des personnels et des établissements, qui a été diffusé par le ministère, contient surtout des mesures déjà prises et souvent difficiles à appliquer. Le constat est encore plus sévère dans Le Figaro, pour qui l'État est mobilisé mais dépassé. Malgré les dispositifs existants et la création par la ministre d'une force scolaire mobile, écrit Le Figaro, l'insécurité scolaire est devenue alarmante pour les enseignants, les élèves et leurs familles. Et l'éditorialiste du Figaro en profite pour lancer cette alerte. C'est la France entière qui se sent harcelée par la violence ordinaire.
Tout autre chose, Emmanuel Macron, dimanche, prononcera un discours à l'occasion des 30 ans du génocide rwandais. Il comportera cette phrase « La France aurait pu arrêter le génocide ».
Oui, la citation sortie dès hier soir par l'Élysée et sur tous les sites d'information depuis, elle dit exactement ceci. « La France, qui aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, n'en a pas eu la volonté ». Le Figaro consacre deux grandes pages à la réconciliation rwandaise, avec un reportage assez poignant dans le village de Mbio, à 45 km de Kigali, la capitale du Rwanda, où Tutsi et Hutu cohabitent aujourd'hui pacifiquement et où les enfants des victimes croisent tous les jours les enfants des bourreaux. Le magazine La Croix, l'Hebdo, de son côté, livre une passionnante enquête sur la veuve du président Habyarimana, réfugiée en France et soupçonnée d'être impliquée dans les massacres de 1994 au Rwanda.
Pourtant, il ressort de cette enquête que l'ex-première dame du Rwanda vit tranquillement à Évry, à l'abri des poursuites judiciaires.
Le reporter de La Croix Hebdo l'a vue, mais n'a pas pu lui parler. Elle était assise à quelques places de lui pendant une messe, vêtue modestement, abîmée dans sa prière, décrit-il. Après la communion, une jeune femme est venue la chercher et elle a disparu comme un fantôme. Son avocat a refusé de mettre le journaliste en contact avec elle. L'article cite les documents et témoignages qui imputent à Agathe Habyarimana une responsabilité dans le déclenchement du génocide rwandais. De fait, elle est visée depuis 2007 par une plainte pour complicité de crimes génocidaires déposée en France et aussi par un mandat d'arrêt international. Le mois dernier, le procureur national antiterroriste français, Jean-François Ricard, a promis aux autorités rwandaises de faire avancer ce dossier, lit-on dans La Croix. On verra si cette fois la France fait ce qu'elle peut ou ce qu'elle doit. La matinale du Monde évoque ce matin la réconciliation inachevée entre la France et le Rwanda.
Une autre parole forte du président de la République est reprise dans Le Figaro. C'est un coup de sang contre Bruno Le Maire.
Ça s'est passé le 20 mars à l'Élysée en petit comité dans une réunion consacrée à la dégradation des comptes publics, d'après Le Figaro. Il y a là plusieurs ministres importants. La conversation glisse sur les causes de la baisse des recettes fiscales et les économies à trouver. Au bout d'une heure, le président montre d'évidents signes d'énervement et lâche. Bruno, ça fait quand même 7 ans que tu es là. Le Figaro en déduit qu'Emmanuel Macron s'impatiente du manque d'allant de son ministre de l'économie. Un témoin parle d'un agacement contenu du président, mais bien réel, et souligne que c'était le jour de la parution du nouveau livre de Bruno Le Maire, La Voix française, qui ressemble drôlement à une entrée en campagne. La colère présidentielle n'a donc peut-être pas que des raisons économiques.
Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est entretenu au téléphone avec son homologue russe, Sergueï Shoigu, et la presse a du mal à savoir ce que les deux ministres se sont dit.
Oui, ça semble moins net, en effet, que la pique d'Emmanuel Macron envers Bruno Le Maire. Est-ce que c'est parce que les deux hommes usaient d'un langage diplomatique ? Ce n'est pas sûr. Le Parisien évoque un brouillage sur la ligne, au sens figuré, bien sûr. Côté français, on dit que l'appel de Sébastien Lecornu visait à communiquer des informations utiles sur l'attentat de Moscou et l'État islamique. Mais les Russes, eux, prétendent que la France serait disposée à dialoguer sur la guerre en Ukraine, ce que dément formellement l'entourage de Sébastien Lecornu. Et ce qui fait dire aux Échos ce matin que Moscou instrumentalise cet appel téléphonique entre ministres. De son côté, le quotidien ukrainien Ukrainska Pravda affirme que Sébastien Lecornu en a profité pour rappeler, au contraire, l'opposition française à l'agression russe. Il n'y a pas de téléphone rouge entre Paris et Moscou, mais apparemment, il y a du téléphone arabe.
Et en complément, je vous renvoie à la chronique du jour de Christian Macarian, à la fin de laquelle je vous ai dit qu'en 2 ans, la Russie avait grignoté 500 km² de territoire ukrainien. Non, pas en 2 ans. Depuis octobre 2023, c'est très différent.
En 2 ans, c'est beaucoup plus.
Toutes mes excuses, exactement, c'est beaucoup plus, comme le signalaient deux auditeurs. Éditeur très avisé et que je salue au passage. On continue. Tout cela aurait pu être plus clair si la conversation avait eu lieu en français. On parle des deux ministres de la Défense russes et français. Dans le supplément télé du Figaro, Michael Douglas révèle pourquoi il parle très correctement le français.
Oui, le fils de Kirk Douglas, grand producteur et acteur lui-même, a 79 ans. Il est à l'affiche d'une série historique sur Benjamin Franklin, grand scientifique et politique américain du 18e siècle. La série a été tourné en France car Benjamin Franklin était venu plaider la cause de la Révolution américaine à la cour de Louis XVI en France et en français, avec des acteurs français s'il vous plaît. Mon français est correct, sans plus, dit modestement Michael Douglas. Franklin parlait mal le français, donc ça m'a enlevé un poids, même si j'avais un professeur. Et arrive le scoop de l'interview. Michael Douglas a appris notre langue à l'école, puis, dit-il, grâce à une jeune fille suisse rencontrée à Los Angeles. J'avais un énorme béguin. Je suis allé la voir à Genève. J'ai découvert qu'elle avait déjà un petit ami. Donc me voilà, à 17 ans, chez ses parents qui ne parlaient pas l'anglais. Je restais avec eux quand elle sortait avec lui. Or, les Suisses parlent lentement. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Et voilà cet aveu et cette explication. Cela confirme qu'être amoureux aide à parler le français. Et ça confirme aussi qu'en amour comme en français, il ne faut pas aller trop vite.
Exactement. Et j'ajouterais que le papa de Michael Douglas, Kirk Douglas, parlait un superbe français.
Et avait épousé une française ou une francophone, du moins.
Et de bonne mémoire, je me demande s'il n'a pas été invité à Apostrophe, où il parlait en français avec Bernard Pivot. Ça reste à vérifier. Si j'ai dit une ânerie, les auditeurs seront là pour me le rappeler. Dans un instant, nos esprits libres, je salue Hervé Gattegno, auquel je souhaite quelques jours de repos.
Merci.
À la semaine prochaine, donc. Et tout de suite, nos esprits libres. Nous avons Jean-Marie Colombani aujourd'hui et Sophie Obadia.